Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM dans notre nouvelle émission Asian Time, pour passer un beau moment dans l'Asie avec nous. Je suis Charline, accompagnée de Mélissa.
Salut, heureuse d'être ici et de commencer cette nouvelle aventure avec toi.
Alors, ce format va se baser sur les pays d'Asie et pour notre toute première émission, nous allons vous présenter l'Inde. En gros, chaque épisode commencera par une actu du pays en question, puis on choisira un thème comme l'histoire, la société, le cinéma ou la musique, un peu de tout. Il y aura parfois un micro-trottoir, parfois une interview ou un débat sur un sujet polémique. Cette émission va permettre à chacun de s'exprimer sur l'Asie et d'enlever tous ces préjugés qu'on pourrait avoir.
Et je tiens à rajouter qu'il ne faut pas hésiter à venir nous parler si cela vous intéresse de débattre sur un sujet ou un pays. Même juste un thème que vous voudriez qu'on parle, ça nous va aussi.
Et pour finir, puisque nous sommes intéressés à l'Asie par les films et séries, on va vous en présenter un à la fin. Alors vas-y, raconte-moi ce qu'il s'est passé en mars en Inde, Mélissa.
Ok, alors, il faut savoir que les élections générales vont bientôt arriver. Elles vont se dérouler du 19 avril jusqu'au 1er juin. Donc je dis ça parce que c'est important de le garder en tête pour l'info qui va suivre. La nouvelle qui a marqué le pays est que le jeudi 21 mars, le ministre en chef de la capitale New Delhi a été arrêté pour corruption. Donc son statut correspond pour nous à un chef d'un gouvernement, d'un état ou d'un territoire. D'ailleurs son parti, c'est le Parti de l'Homme Ordinaire, mais on va abréger avec AAP. Il l'a fondé en 2012 avant d'être ministre en chef de New Delhi en 2013. Il s'appelle Arvind Kejriwal et il a de l'importance car il est l'un des principaux dirigeants de l'alliance d'opposition qui va pouvoir affronter le Premier ministre Narendra Modi aux élections prochaines.
Ah oui, c'est quelque chose. Et il s'est passé quoi?
On sait qu'il a été arrêté jeudi 21 mars, comme je l'ai dit, après plusieurs heures d'interrogatoire et par l'Orphans Made Directorate, donc la principale agence indienne chargée de la lutte contre les délits financiers. Mais sinon, les avis sont partagés. L'histoire officielle est que c'est son parti qui aurait commencé à attribuer en 2021 des licences privées d'alcool. Et en 2022, deux membres ont été emprisonnés. Kejriwal aurait refusé alors de venir à des convocations afin de l'interroger dans le cas de l'affaire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il a été arrêté et emmené de force à un interrogatoire. Sauf que son parti dément et il qualifie cette enquête comme, je cite, une conspiration politique. Du coup, cette agitation a suscité des manifestations de ses partisans afin de le défendre. Il reste un acteur majeur dans la politique indienne et son sort pourrait avoir des répercussions sur les élections à venir. Et pour finir, il faut rajouter que les opposants politiques de Narendra Modi, l'actuel dirigeant, et les défenseurs des droits internationaux nous interpellent sur un rétrécissement démocratique de l'Inde.
Du coup, ça pourrait ressembler à un complot politique. En vrai, je me demande ce que les gens doivent penser de la vie en Inde. Je suis pratiquement sûre que beaucoup ne savent rien de cette histoire alors que c'est le pays le plus peuplé au monde, avec 1,46 milliard d'habitants. D'ailleurs, nous allons écouter le micro-trottoir sur les avis des personnes à Nevers et nous reviendrons sur leurs réponses données d'après nos recherches.
Alors, qu'est-ce que vous évoque l'Inde ?
L'Inde ? Alors moi, ça me fait penser aux éléphants, à la musique, à la danse, aussi du coup au symbole du le point rouge qu'ils ont sur le front. Voilà, c'est joyeux ce que ça m'évoque.
Ok, et est-ce que du coup vous pensez qu'il y aurait par exemple l'égalité des sexes là-bas ?
À mon avis, je pense pas, hein. J'en doute fortement.
Et est-ce que vous connaîtriez certaines normes sociales, par exemple ?
J'avoue qu'à mon avis, j'imagine bien plutôt je sais pas, non. Ouais, non, je dirais des bêtises, de toute façon. D'accord. Non, je sais pas.
Okay. Par exemple, vous savez comment on dit bonjour ou pas ?
Ah, pas du tout. Pas du tout.
Il y a beaucoup d'habitants, mais il y a quand même beaucoup de misère hein, en Inde. Hein. Donc oui, c'est pas un pays où j'irai habiter. Mais bon, visiter, oui, j'ai visité le Rajasthan. New Delhi, je connais pas. Hein. Mais bon, c'est un pays quand même assez pauvre.
Est-ce que vous savez comment on dit bonjour, par exemple, là-bas ?
Non.
D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'ils sont libres de se marier ?
Avec qui ?
Ils ont le choix de...
Je crois pas. Je pense pas.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du système de caste là-bas ou pas ?
Non, non, mais c'est un pays que je connais pas beaucoup quand même. Non.
Quelles sont vos idées reçues sur l'Inde ?
Aucune.
Vous pensez que c'est un pays plutôt joyeux ou plutôt où il y a de la misère ?
Non, il y a les deux, je pense.
Oui.
Beaucoup de misère. Le problème des castes, des religions aussi, les guerres interreligieuses, interethniques.
Quelles sont vos idées reçues sur l'Inde ?
pas forcément mauvaise, vu que je ne connais pas trop. Et c'est un pays que j'aimerais bien aller. Je n'ai pas d'a priori. J'ai bien aimé Gandhi, si ça vous dit quelque chose.
Oui,
l'Inde, sauf que le Gange, je crois, c'est pas très propre, c'est un petit peu où ils vont tous se baigner parce qu'ils ont des tas de trucs religieux.
Pensez-vous que là-bas, y a-t-il l'égalité des sexes?
Non, je n'ai pas l'impression. Mais non, je pense que les femmes sont peut-être... Mais je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression, voilà.
Est-ce que vous connaissez quelques traditions religieuses ou comment ils pourraient s'habiller, par exemple?
Oui, ils ont toujours des robes, un peu des robes pour les... Alors, c'est les hindous, hein, je crois. C'est pour ça qu'ils vont se baigner dans le Gange, pour honorer je ne sais pas quoi, et c'est pollué complètement, donc je trouve pas ça sympa, quoi.
Pour vous, mesdames, quels sont les animaux sacrés là-bas?
Les vaches sont très sacrées pour eux. Les
Indiens. Alors vas-y Mélissa, est-ce que certains clichés seraient vrais? Éclaire-nous.
Alors globalement, comme vous avez pu l'entendre, les avis sont assez mitigés. Et beaucoup ne connaissent pas l'Inde.
Attends, avant que tu commences, j'aimerais savoir comment on les appelle, indiens ou hindous?
Les habitants de l'Inde sont appelés indiens et hindous, c'est relatif à ceux qui pratiquent l'hindouisme, ce qui est en majorité la religion la plus utilisée en Inde. Mais je vais employer le terme indien car il y a quand même d'autres religions là-bas.
Ok, alors est-ce que tous les indiens portent ce point rouge dont la femme parle au début?
Alors tous les indiens ne le portent pas et ce point rouge a différents noms. En gros, il y a le tilak qui est toujours appliqué avec une pâte ou de la poudre, mais ça a aussi une connotation religieuse. Souvent, on dit que c'est le troisième œil intérieur qui représente la foi que l'on a envers Dieu. Ensuite, il y a le bindi qui, lui, peut être sous forme de bijoux. Dans l'Inde du Nord, c'était surtout les femmes qui le portaient pour montrer qu'elles étaient mariées.
Et aujourd'hui, c'est toujours le cas?
Aujourd'hui, ça peut avoir un but décoratif pour un maquillage, par exemple.
Et au sujet de la femme qui a dit que la vache était sacrée, est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors oui et non. Déjà, leurs vaches, elles n'ont pas le même nom et elles ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Donc c'est un zébu. Je laisse regarder ceux qui nous écoutent sur internet à quoi ça ressemble. Et ensuite, il y a d'autres animaux qui sont sacrés comme la chèvre. Donc je ne sais pas si tu connais, mais il y a une expression qui est utilisée pour dire « ma chèvre est mon atout économique et ma fille ma dette ». C'est pour te dire.
Ah ouais, et mais pourquoi c'est un poids lourd économique pour eux, une fille? Le mariage est toujours obligatoire?
Oui, 90% des mariages sont arrangés et 48% des filles impliquées dans un mariage arrangé ont moins de 18 ans. En plus, la dot existe toujours là-bas. Donc imagine une famille qui est pauvre économiquement, doit payer tout le mariage de leur fille.
Mais pourquoi c'est aussi important pour eux?
Je sais que de toute façon, tu es mal vu si tu n'es pas mariée ou que tu n'aurais pas de croyances religieuses. Ces deux piliers ont fondé la société d'aujourd'hui en Inde et c'est pas prêt de changer.
Bah justement, par rapport à la religion, je n'ai pas compris ce que le monsieur nous a dit sur le Gange. C'est quoi le rapport entre un fleuve et la religion? Pourquoi ils s'y baignent tous?
Alors en gros, tout le monde va là-bas pour se purifier de ses péchés. Mais le problème, comme il disait, c'est sale, parce qu'il y a beaucoup de déchets qui y sont jetés et c'est aussi une bouche d'égout si tu veux. Donc il permet de purifier l'âme et aussi d'accéder au paradis, mais du coup il y a au moins 300 cadavres par jour qui sont brûlés près du fleuve ou jetés dans le fleuve. Donc si tu vas en Inde, un petit conseil, ne va jamais t'y baigner, sinon tu risques d'attraper une maladie ou une infection.
Et le gouvernement, il fait rien?
Bah ils ont promis de faire quelque chose depuis au moins 20 ans, mais c'est tout.
C'est sûr que c'est un autre monde. En vrai, comme disait la dame qui allait à Rajasthan, c'est sûrement la misère et beaucoup de pauvreté là-bas.
En vrai, elle m'a surprise cette dame-là parce qu'elle est partie en Inde, mais elle ne connaissait pas le système de caste.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet?
Bien sûr, mais ce système est très complexe. Donc en gros, il faut savoir qu'au total, il y a 400 castes et sous-castes en Inde. Mais on va parler des 4 castes principales qui divisent la société indienne de nos jours. Donc il y a la caste des Brahmanes. C'est la caste la plus noble et elle représente environ 6% de la population. À l'origine, c'était des personnes garants de la connaissance spirituelle et religieuse et même qu'on les appelait les gourous du monde.
Mais quelles fonctions ils ont?
Souvent, dans les campagnes, ce sont des prêtres. Parfois, ce sont eux qui dirigent l'éducation, en gros la politique du village. Par contre, dans les grandes villes, ils ont complètement perdu leur titre de noblesse et certains peuvent faire partie des plus pauvres. Ensuite, la deuxième caste, c'est les Ksatriyas. Ce sont des personnes chargées de la protection et au bon fonctionnement de la société. Donc par exemple, ça peut être des militaires, des policiers ou encore des personnalités politiques.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es obligé d'être né dans cette caste pour accéder à ces métiers?
Non, beaucoup de facilités ont été mises en place par le gouvernement pour stopper justement ce système de caste, même s'il est encore très présent dans la vie des gens. Ensuite, on a les deux dernières castes avec les Vassiyas. Donc, ce sont des personnes qui ont un métier ou une responsabilité économique dans le pays. Par exemple, il peut y avoir des commerçants, des industriels ou encore des agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est très accessible pour un ouvrier qui se débrouille en négociation et qui souhaite gérer une boutique. Et enfin, la dernière caste est celle des Kudras. Donc, c'est l'une des plus basses dans les principales castes parce qu'au final, la plus misérable est la sous-caste des Dalits, autrement dit les intouchables. Mais les Kudras représentent plus de la moitié de la population et ils sont ceux qui servent la société, comme les domestiques ou les balayeurs de rue. C'est vraiment une fatalité de faire partie de cette caste parce qu'on est voué à vivre avec, et pareil pour notre génération suivante. C'est à partir de ce système qu'on voit qu'il y a des inégalités sociales et un énorme déséquilibre. Par exemple, un brahman, il a le droit de refuser un repas préparé par un Kudra, car c'est considéré comme impur.
Ils sont discriminés en raison de leur caste ou pas ?
Actuellement, il y a une loi qui punit un acte discriminatoire ou qui porte préjudice à un Kudra. En plus, 30% des fonctions publiques sont réservées aux Kudras. Sauf que le souci, c'est que certains ont des postes de direction importants, alors qu'ils n'ont pas tous été scolarisés et que parfois ils sont même illettrés. Donc du coup, forcément, ça mène à la baisse du niveau du pays.
Mais comment ils savent différencier quelqu'un qui est dans une bonne caste comparé à un autre ?
Souvent, ils vont se présenter avec leur nom et leur caste associée. Sinon, ils se le demandent mutuellement. Le nom, le métier, le style vestimentaire, le langage ou même le niveau de langue donnent directement des informations sur la caste indienne.
Est-ce qu'ils sont tous la même façon de se saluer ?
Bah, pour dire bonjour, il faut joindre les mains devant la poitrine et dire le mot namasté, ce qui signifie « je salue la divinité qui est en toi ». Pour une marque de respect encore plus grande, on peut même toucher les pieds de la personne que l'on salue. Et par exemple, les enfants touchent les pieds de leurs parents ou même grands-parents en guise de bonjour.
Est-ce que c'est vrai qu'ils mangent avec les mains ou pas ?
Oui, parce qu'on dit que manger avec ses mains aide à mieux recevoir les bienfaits des aliments. C'est la main droite qui est utilisée, la gauche est plutôt réservée à un usage plutôt impur. Et il faut utiliser trois doigts uniquement, donc le pouce, l'index et le majeur. Et pour rester sur le thème du repas, en temps normal, quand tu vas chez des invités, tu veux les remercier de leur accueil. Et ben, en Inde, lorsque c'est une famille indienne qui accueille des invités, en plus des cadeaux de la famille accueillie, ils vont aussi offrir des présents. Donc c'est une sorte d'échange. En gros, du coup, ils ont toujours des cadeaux préparés à l'avance. Et quand tu offres un cadeau à un Indien, il ne va pas forcément l'ouvrir devant toi, ni même te remercier. Il faut savoir que pour eux, le merci ou le s'il vous plaît n'est pas un mot commun.
Ok, en vrai, je pense qu'il faut pas le prendre mal, ni comme un manque de politesse. J'imagine que certains de nos comportements pourraient être bizarres, comme se faire la bise, non ?
Si, bien sûr. En plus, il y a beaucoup de pudeur là-bas, et ils sont très attachés à leur tradition. Et pour la petite anecdote, en guise d'affirmation ou d'approbation, en indien, il va secouer la tête de la gauche à la droite, comme si c'était pour nous un non, mais alors que pour eux, ça veut dire un oui.
Ah oui,
c'est complètement l'inverse.
Ouais, oui.
C'est... Et du coup, en plus, les femmes, elles servent le repas aux hommes et aux invités en premier, puis elles mangent entre elles ensuite. Donc du coup, en fait, le repas familial à la française, il n'existe pas du tout.
Mais de toute façon, ils vivent très sobrement, non ?
Ouais, t'as raison. Dans leur maison, on n'y trouve que le strict minimum. Les Indiens ne s'encombrent pas de table, ni de chaises la plupart du temps, ni de meubles ou de déco.
Ok, merci pour ces infos. Après un long moment passé ensemble, nous finissons sur nos recommandations de films en rapport avec la culture indienne. Comment ne pas parler de Bollywood quand nous parlons de l'Inde ? Il y a un film très connu intitulé La famille indienne. C'est une romance indienne sortie en 2001 et réalisée par Karan Johar. En découvrant ce film, vous allez être plongé dans une famille aisée avec quelques différends entre eux. Le fils adopté de la famille tombe amoureux d'une fille en dessous de leur statut social, ce qui va leur déplaire. Si vous êtes curieux, je vous laisse y jeter un coup d'œil. En tout cas, ce film est rempli de références à leur mode de vie et leur culture indienne. Avec ses traditions et ses musiques splendides, vous allez voyager tout au long du film. Si vous êtes plus intéressé par une histoire bouleversante qui retrace la vie de plusieurs femmes, dont une vie en Inde, je vous recommande La Tresse. C'est un livre de Laetitia Colombani à la base, mais il est sorti récemment au cinéma. Concernant l'indienne, il parle des conditions de sa vie en tant qu'intouchable et femme.
Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers.
Bonjour.
Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier.
Salut.
Je veux jouer, c'est mon tour.
Non, t'as joué
plus
que moi.
Les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis.
Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai.
Qui t'a frappé ?
Le maître.
On doit partir, on doit quitter Niyamatapad.
Partir d'ici ? Pour aller où ?
Maman, où est-ce qu'on va ? Papa !
Ma fille !
Maman, c'est papa !
Smita !
Allez, papa, dépêche-toi !
Merci Mélissa pour toutes ces informations et merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un épisode consacré au Japon. Vous pouvez retrouver l'émission Asian Time en podcast sur le site bacfm.fr.
Merci aussi à toi de me soutenir dans cette aventure. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.